Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Frères et sœurs, nous sommes remontés au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, et nous essayons de voir l'attitude qui doit être la nôtre face au mystère de Dieu, et nous avons souligné que cette attitude est celle du serviteur. Je n'ai pas dit esclave, je n'ai pas dit c'est serviteur, un serviteur aimant et confiant. Et nous terminions notre causerie la dernière fois en disant que, même ce terme est un peu péjoratif dans le langage qui est le nôtre aujourd'hui, parler de domestique, un domestique, c'est celui qui est dans la maison, domus, le domus, et qui est dans la maison, qui est bien dans la maison, et qui rend son service dans la maison, mais avec la confiance que lui fait son maître, et la confiance qu'il a lui-même dans le maître. Et saint Paul a pu dire aux Éphésiens, dans ce sens, vous êtes de la maison de Dieu, littéralement vous êtes des domestiques de Dieu. Dans la Vulgate c'est comme ça, vous êtes de domestici dei, vous êtes de la maison de Dieu. Les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament se sont tous reconnus comme les serviteurs de Dieu, qu'ils soient les patriarches, nous allons parler de ces patriarches que j'appelle volontiers les premiers amis de Dieu, et ce serviteur privilégié aussi que fut David, dont nous avons longuement parlé, rappelez-vous l'affection avec laquelle le Seigneur dans les textes des livres de Samuel et des rois, et donc parle de David, mon serviteur, avec beaucoup d'affection. Et David le lui rendait bien avec le respect que nous savons. Donc les patriarches, le serviteur privilégié que fut David, et plus particulièrement le serviteur du Seigneur, qui est une des plus hautes figures du Christ, notamment dans le prophète Isaïe, où il y a 4 chants du serviteur, et le dernier c'est le chant du serviteur souffrant, que nous lisons le vendredi saint à l'office de l'après-midi. Et donc serviteurs aussi, tous ces psalmistes qui ne cessent de faire valoir devant Dieu leur titre de serviteur, et ce titre qui les recommande à la miséricorde divine, à la recette divine, c'est-à-dire à l'amour descendant du Seigneur, ce que les pères de l'Église ont appelé la condescendance de Dieu. Mais il ne faudrait pas interpréter ce mot dans notre langage actuel. La condescendance, c'est quelque chose d'un peu paternaliste, un petit peu de regard de haut, etc. Non, c'est Dieu qui s'est fait l'un de nôtre, qui est descendu en effet sur la terre, qui s'est fait homme pour que nous puissions rejoindre sa vie propre, sa vie et sa gloire. Si le Christ n'a pas rougi de prendre notre condition de serviteur, c'est ce que saint Paul chante dans l'hymne du début de l'épître aux Philippiens, donc s'il n'a pas rougi de prendre notre condition de serviteur pour nous élever à sa condition de fils, et si Marie, la mère de Dieu, s'est nommée d'instinct dans son Magnificat la servante du Seigneur, comment n'aurions-nous pas à cœur de faire nôtre cette attitude foncière des créatures que nous restons toujours, quelle que soit la condition nouvelle à laquelle il puisse plaire à Dieu de nous élever, fils. Un serviteur est fait pour servir, et donc c'est tout le mot important, on est attentif à la diaconie dans les trois fonctions du Christ et de l'Église, ce sont celles d'annoncer la foi, de célébrer la foi, et de servir au nom de la foi, donc c'est la catéchèse, la liturgie, et puis la diaconie précisément, et c'est le service. Donc un serviteur est fait pour servir, pour obéir aux directives ou aux simples souhaits de son maître, avec un empressement qui se mesure au degré d'attachement qu'il lui voue. Et quand le maître est Dieu lui-même, son service est un honneur, s'il est vrai, comme dit la formule, que servir Dieu c'est régner. Et le service divin ne désigne-t-il pas, dans la plupart des langues, l'œuvre liturgique en laquelle Dieu sert l'homme, et plus encore que ce dernier ne le sert. Et Dieu sert l'homme, et c'est d'abord Dieu qui se met à notre service, qui se met à notre portée. Et nous, en retour, nous servons le Seigneur, et c'est et donc le service liturgique, ce que les Hébreux appellent l'avoda, l'avoda qui est la même racine que le mot évêque, qui veut dire serviteur. Donc dans la liturgie, nous écoutons la parole de Dieu, qui est toujours active, et nous nous disposons à la faire. Heureux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, dit Jésus. Nous recevons la parole, puis nous la reprenons à notre compte. Et l'office monastique des vigiles, ou ce qu'on appelle l'office des lectures maintenant, commence par cette prière. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. » Et nous pourrions dire aussi bien « Seigneur, ouvre mon oreille » ou bien avec un des chants du serviteur du Seigneur en Isaïe « Seigneur, éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. » Qui veut prier dans la célébration communautaire de l'alliance qu'est la liturgie ou bien dans l'intimité d'une rencontre personnelle avec Dieu doit privilégier en lui l'attitude fondamentale du serviteur qui écoute pour connaître la volonté et le bon plaisir du maître et qui s'apprête à les réaliser. C'est l'attitude de Marie. Marie, mère du Seigneur, ou de Marie de Béthanie, qui est assise aux pieds de Jésus, écoute sa parole. Et la prière n'est-elle pas le moment privilégié où notre volonté s'ajuste à la volonté de Dieu? L'Ancien Testament parle souvent de la justice des hommes de Dieu. Le mot est un peu voilé pour nous, car il évoque surtout la justice légale, sociale ou pénale. Nous retrouverions quelque chose de la notion biblique de justice en traduisant justesse, injustement. Le juste pour la Bible est celui qui garde une attitude juste devant Dieu, celui qui s'ajuste continuellement à la volonté de Dieu.